de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Et bientôt, je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres, l'OMS met en garde contre le danger du nationalisme vaccinal. La Turquie envoie une aide de COVID-19 au Venezuela. L'approche diplomatique doit être priorisée dans les différents en mer de Chine méridionale. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a inauguré la nouvelle ambassade indonésienne à Phnom Penh en ligne. Le ministère de la Communication et de l'Informatique a lancé les timbres de la série de Joko Widodo Ma'ruf Amin. L'Indonésie a l'opportunité d'avancer pendant une pandémie avec un bonus démographique. Et la Nouvelle-Zélande ajoute du personnel militaire à la frontière. Mon cher Gélitard, voici le nouvel en complet. L'OMS met en garde contre le danger du nationalisme vaccinal. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé au gouvernement du monde entier de partager des fournitures médicales afin de lutter contre la pandémie du coronavirus. Il a mis en garde contre les dangers du nationalisme vaccinal COVID-19. Tedros, tel que rapporté par Anadolu Agency, a déclaré mercredi 19 août, bien que les dirigeants espèrent d'abord protéger leur peuple, la réponse à cette pandémie doit se faire collectivement. L'OMS répertorie 25 vaccins candidats en évaluation clinique et 139 en évaluation préclinique pour lutter contre le nouveau coronavirus. 6 candidats vaccins COVID-19 ont atteint le niveau de phase 3 selon l'OMS. 3 sont originaires de Chine, un est développé par une société anglo-suédoise travaillant avec l'université d'Oxford et 2 par des scientifiques américains. L'OMS a réagi avec prudence à l'annonce de la Russie de se préparer à lancer une campagne de vaccination de masse contre le nouveau coronavirus en octobre. La Turquie envoie une aide de COVID-19 au Venezuela. La Turquie envoie l'aide médicale au Venezuela par aider le pays d'Amérique latine à faire face à la pandémie de coronavirus. Au même moment, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a rendu visite au gouvernement du président Nicolas Maduro. La Turquie a été l'un des principaux partisans de Maduro que les États-Unis tentent de la renverser avec des sanctions dans le secteur pétrolier qui sont si importants au Venezuela. Sous le règne de Maduro, le pays autrefois prospère a connu une crise économique prolongée. C'est ce qu'a déclaré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, après avoir rencontré Cavusoglu mercredi 19 août. Ces dernières années, les tensions entre Caracas et Washington se sont aggravées. Pendant ce temps, la Turquie renforce ses relations économiques avec la Venezuela. Ils exportent des produits vers le programme de distribution alimentaire du gouvernement et achètent l'or de la nation latino-américaine. L'approche diplomatique doit être priorisée dans les différents mers de Chine méridionale. L'expert en droit maritime international Hashim Jelal a déclaré que l'approche diplomatique doit être priorisée dans le traitement des différends concernant les eaux territoriales de la mer de Chine méridionale, plutôt qu'une approche militaire. Lors d'une discussion en ligne mercredi, Hashim a déclaré que concernant la tuna, des mesures étaient nécessaires pour en faire le centre des activités de l'Indonésie dans la région de la mer de Chine méridionale, afin de défendre les droits économiques, territoriaux et souverains. Selon lui, il n'est pas nécessaire de traverser un conflit, mais il est nécessaire de développer les capacités et les connaissances scientifiques concernant les ressources de l'Indonésie ainsi que la nécessité d'accroître les relations de coopération avec les pays voisins de la région. Néanmoins, l'Indonésie doit également se préparer avec la force militaire si une confrontation se développe, non pas en raison des souhaits de l'Indonésie, mais en raison d'autres situations. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a inauguré la nouvelle ambassade indonésienne à Phnom Penh en ligne. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a inauguré jeudi le nouveau bâtiment de l'ambassade d'Indonésie à Phnom Penh, au Cambodge, en ligne depuis Jakarta, conjointement avec le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie du ministère des Affaires étrangères. Une déclaration écrite reçue à Jakarta mercredi expliquait que l'ambassade d'Indonésie à Phnom Penh avait occupé un nouveau bâtiment permanent après plus de 60 ans de relations diplomatiques avec le Cambodge. La nouvelle ambassade d'Indonésie à Phnom Penh est située dans un endroit stratégique de la ville, qui est en face du mémorial Norodom Sihanouk et de la statue du roi Sihanouk, qui est l'une des icônes de la ville de Phnom Penh. À cette époque, le roi Sihanouk était le compagnon d'armes du président Sukarno. De responsables cambodgiens, y compris gouverneurs de Phnom Penh, ont également adressé leurs félicitations au gouvernement indonésien pour l'inauguration en ligne. Par ailleurs, l'ambassadeur d'Indonésie au Cambodge, Sudirman Hassan, a exprimé sa gratitude à toutes les parties impliquées dans le processus de transfert de l'ambassade d'Indonésie à Phnom Penh vers un nouvel emplacement. Le ministère de la Communication et de l'Informatique a lancé les timbres de la série de Joko Widodo Maruf Amin. Le ministère de la Communication et de l'Informatique a lancé des timbres de la série le président Joko Widodo et le vice-président Maruf Amin virtuellement dans le cadre d'une série de commémorations du 75e anniversaire de l'indépendance indonésienne à Jakarta mercredi. Les timbres de la série du président Joko Widodo et du vice-président Maruf Amin sont une forme de respect en tant que chef de l'État et chef neuf adjoints de l'État qui ont été élus par les Indonésiens à travers un processus démocratique. Le ministre de la Communication et de l'Informatique, Johnny G. Platte, a déclaré mercredi dans son discours que des séries de timbres présidentiels et vice-présidentiels sont émis à chaque période de gouvernement en tant que document d'État pour honorer le mérite des dirigeants. Pendant ce temps, le vice-président Maruf Amin a déclaré dans ses remarques les timbres ont maintenant connu un changement de sein, parallèlement au développement rapide de la technologie et de l'information. Selon Maruf Amin, les timbres sont devenus une partie importante de chaque événement historique pour la nation et la société indonésienne. Le vice-président Maruf Amin a signé une série de timbres de président et de vice-président à la résidence officielle du vice-président Jakarta lundi 17 août avant d'assister à la cérémonie d'abaissement du drapeau rouge et blanc. L'Indonésie a l'opportunité d'avancer pendant une pandémie avec un bonus démographique. L'Agence nationale de la population et de la planification familiale BKKBN a déclaré que l'Indonésie avait l'opportunité d'aller de l'avant pendant la pandémie COVID-19 en profitant des bonus démographiques. C'est ce qu'a déclaré la directrice de l'autonomisation économique de la famille du BKKBN, Eli Kusnaili, lors d'une discussion en ligne citée mercredi par l'agence de presse Antara Jakarta. Selon elle, sur la base des graphiques existants, le taux de dépendance de l'Indonésie a continué de baisser depuis 2010 et estimé jusqu'en 2010, le taux de dépendance a été enregistré à 50,5%, puis est tombé à 48,6% en 2015, 47,2% en 2020, 47,2% en 2025 et un pic de 46,9% en 2030. Cela signifie que le nombre de personnes productives sera plus élevé que ceux qui ne le sont pas productifs. Elle a dit qu'il y avait des avantages d'un ratio de dépendance inférieur à 50%. Ainsi, chaque famille du pays devrait être plus productive et plus qualifiée. La Nouvelle-Zélande ajoute du personnel militaire à la frontière. La Nouvelle-Zélande dit qu'elle augmente le nombre de membres du personnel dans les installations de quarantaine et aux frontières pour contenir la propagation du coronavirus pendant ce temps. Les cas d'infection par le coronavirus dans le pays n'ont augmenté que de 5. Dans un communiqué, le gouvernement néo-zélandais a déclaré qu'il ajouterait 500 personnes au nombre de forces de défense aidant à répondre à la pandémie de COVID-19. Cela porte le nombre total de soldats déployés à 1200. Le plus grand contingent déployé depuis que la Nouvelle-Zélande a envoyé des soldats de la paix dans Timor oriental à la fin des années 2000. C'est ce qu'a déclaré la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse mercredi 19 août. La Nouvelle-Zélande n'a annoncé que 5 nouveaux cas d'infection à coronavirus au cours des dernières 24 heures, moins que mardi dernier 18 août jusqu'à 13 cas. Ardern a déclaré que cela indiquait qu'il n'y avait pas d'épidémie actuellement dans la communauté. Mon cher auditeur, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
C'est juste un bonsoir. Voici le commentaire. Et pour le titre, la signification de Hijra ou de déplacer des lieux pendant une pandémie. Il y a des 14 derniers siècles, le calendrier de l'Hijra basé sur le cycle lunaire a été appliqué par les musulmans. Ce calendrier fait référence au cycle lunaire pour surmonter les problèmes administratifs à l'époque du califat Omar bin Khattab. Son calendrier est différent du calendrier grégorien qui fait référence au soleil et à la naissance de Jésus. Le calendrier de l'Hijra était basé sur le déplacement du prophète Muhammad de la Mecque à Médine dans sa lutte de da'wah. Le ministre indonésien des affaires religieuses, Fahrul Razi, dans sa remarque à l'occasion de la nouvelle année Hijra, le 20 août 2020, a invité les musulmans à maintenir l'unité et à améliorer la vie de l'État en accueillant le nouvel an islamique 1er Muharram 1442 Hijra. Selon lui, au milieu de la pandémie de COVID-19, l'esprit du Hijra peut être défini comme le passage d'un mauvais état à un autre endroit afin d'obtenir une meilleure condition. Hijra peut signifier le passage du munkar ou du déni à la piété, de la réparation à l'avancement, de désavantageux à bénéfique et de jahiliya ou de l'ignorance à la civilisation digne. Dans certaines régions d'Indonésie, 1er Muharram est commémoré dans différents rituels et traditions. Dans la plupart des Javanais, 1er Muharram est considéré comme le premier shuro dans lequel beaucoup pratiquent la masse pendant toute la nuit qui suit le départ du prophète de la Mecque la nuit. Tout le rituel comme seul toute la nuit est trempé dans la rivière ou les côtes pour se purifier vise à libérer et effacer la malignité pour obtenir un corps et une âme plus propre. Le déplacement au hijrah du prophète Muhammad ne concerne pas seulement le déplacement physique, mais le mouvement dans l'esprit, le comportement et l'action selon la morale et les enseignements de l'islam. Dans la situation pandémique actuelle, la signification de la hijrah peut être de se voir ou de se introspecter pour affronter l'ère d'un nouvel ordre de vie en changeant les vieilles habitudes par de nouvelles selon les protocoles de santé. Ce changement est également similaire à l'esprit de hijrah comme arrière-plan du calendrier islamique par le califat Omar bin Khattab. En fait, le changement ou le passage de l'ancien ou du mauvais au meilleur n'est jamais physique. Il s'agit de l'esprit, du comportement et de l'action pour former une morale plus digne. Espérons que la signification de hijrah puisse être comprise et pratiquée dans la vie quotidienne dans une situation pleine d'inquiétude. C'était le commentaire pour ce soir.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 20 août 1968, les troupes du Pakte de Varsovie pénètrent Prague. Le 20 août 1968, l'armée du Pakte de défense de Varsovie, dirigée par l'Union soviétique, entre à Prague, capitale de la Tchécoslovaquie. Ceci est un effort de l'Union soviétique afin de réduire le mouvement de réforme initié par le premier secrétaire du Parti communiste Tchécoslovaquie, Alexander Dubček. Les troupes soviétiques, aidées par la Pologne, la Bulgarie et la Hongrie, ont occupé le pays en menant une répression contre le peuple. Alexander Dubček a été démis à ses fonctions et le mouvement de libération du peuple tchécoslovaque, connu sous le nom de Printemps de Prague, a été totalement paralysé. Le 20 août 2003, l'inauguration du pont Suramadu. Le pont Suramadu est un pont qui traverse le détroit Madura, reliant l'île de Java et l'île de Madura. De longueur de 5438 mètres, ce pont est le plus long pont en Indonésie aujourd'hui. Il se compose de trois parties, à savoir le pont de liaison et le pont principal. Le début de la construction du pont a été inauguré par la présidente Megawati Sukarnoputri le 20 août 2003 et l'ouverture de l'inauguration par le président Susilo Bambang Yudhoyono le 10 juin 2009. Le 20 août 2008, l'accident de Spanair, le vol JK5022. Le vol JK5022 de la Spanair s'est écrasé le 20 août 2008 sur un vol court courrier entre l'aéroport de Barajas de Madrid et l'aéroport de Gran Canaria à Gran Canaria en Espagne. L'accident était la plus grande catastrophe aérienne en Europe occidentale après l'attentat de Lockerbie en 1988. L'avion qui s'est écrasé et s'est incendié au moment où il décollait le 20 août. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir, voici Mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement municipal de Tanjung Pinang délocalise 600 chefs de famille des zones forestières protégées. Le maire par intérim de Tanjung Pinang, Rahma, délocalisera environ 600 chefs de famille de la zone forestière protégée de la rivière Pulai dans la province de Riau comme étape initiale pour restaurer la fonction de la forêt protégée qui soutient la disponibilité de l'eau dans le réservoir de la rivière Pulai. Rahma à Tanjung Pinang mercredi a déclaré que la zone de destination de la relocalisation devrait être construite sur une superficie de 26,6 hectares qui est actuellement incluse dans la base de données des terres abandonnées. Selon elle, la zone était conçue comme une zone qui répond à la qualité des zones de logement qui sont bonnes et conformes aux normes techniques. Cette zone sera également équipée de diverses installations adéquates. En plus d'obtenir des logements de remplacement équipés de la légalité foncière, la communauté recevra également des logements équipés de routes environnementales, d'installations d'éclairage public, de sources d'eau potable, d'infrastructures de traitement des eaux usées, les installations et les infrastructures pour les déchets solides, bons canaux de drainage, le système de protection contre les incendies et les espaces ouverts publics sur plus de 20% de la superficie totale, ainsi que plusieurs autres installations publiques. Rahma a ajouté que cette délocalisation a été effectuée avec un concept de collaboration impliquant divers éléments du gouvernement et également la participation de la communauté pendant le processus de la planification, de développement et de placement des zones résidentielles de délocalisation. Les données de la Société régionale de l'eau potable indiquent que le niveau d'eau dans le réservoir de la rivière Pulai continue de baisser jusqu'à ce qu'il atteigne une fois un niveau de 3 cm pendant la saison sèche. Selon Rahma, la forêt protégée de la rivière Pulai a un rôle très important en tant que bassin versant pour le réservoir de la rivière Pulai et la protection des plans d'eau. Actuellement, le réservoir de la rivière Pulai est la seule source d'eau brute pour la ville de Tanjung Pinang. Elle a ajouté que cette baisse de niveau d'eau était l'impact de l'étendue des terres ouvertes dans la forêt protégée de la rivière Pulai qui atteint 80%. La capacité de la forêt protégée à réguler l'eau et le sol ou hydrologique pour que le réservoir de la rivière Pulai ait également diminué. Serge Ritor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Bagi hanya dirimu paling mengerti. akan ku berikan seluruh cintaku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Chers auditeurs du titre du monde entier, voici le programme La beauté de l'Indonésie, ce soir intitulé La vieille mosquée Patimboak. Bonne écoute! Chers auditeurs, la majorité de la population de la Papouasie est chrétienne. Et dans cette province, on peut encore trouver la trace de l'histoire de l'islam sous la forme de la mosquée Wertuir ou la vieille mosquée Patimboak. Il se trouve à Kampung Patimboak, le district Kokas, au nord de la région de Farfak, la Papouasie occidentale. Elle est la plus ancienne mosquée en Papouasie. Pour aller à la vieille mosquée Patimboak du centre-ville de Farfak, il faut passer par la route sinueuse le long de 45 km pour aller au district de Kokas. Du district de Kokas vers le Kampung Patimboak, le voyage doit être continué avec un petit bateau environ une heure. Le mot Wertue dans la langue locale signifie le plus vieux. Il y a aussi d'autres sources qui définissent Wertue, comme l'eau estuarienne fait référence à l'emplacement de la mosquée qui est située près de l'embouchure de la rivière. La mosquée Wertue a été construite environ 1870 par un prêtre nommé Abu Hari Kilian. Il est venu du sultanat de Ternate et a le devoir de répandre l'islam au pays en Papouasie. Cette mosquée existe jusqu'à présent. De loin, la coupole de la vieille mosquée Patimboak similaire à la coupole de l'église en Europe dans le passé. Le toit est en forme de zinc sous forme de maison en Papouasie et verte, rose et jaune. Cette mosquée est unique, une fusion entre l'église et la mosquée. Il montre une forte tolérance religieuse dans la région. En termes d'architecture, la mosquée Wertuir a beaucoup de philosophie. Au milieu de la mosquée, il y a quatre piliers qui ressemblent aux structures du bâtiment sur l'île de Java. Les bois supportant cette mosquée sont toujours originaux, solides et non remplacés. L'intérieur de cette mosquée est presque la même chose avec des mosquées fondées par les ulémas en Java. La vieille mosquée Patimbourak est toujours utilisée comme lieu de culte de 36 chefs de famille avec 147 personnes vivant à proximité. Ces auditeurs auditistes du monde entier, c'était le programme La beauté de l'Indonésie intitulé La vieille mosquée Patimbourak. À demain!
Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Kamu buat hari-harimu bahagia. Tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu? Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah diri. Hari-harimu ada, lalu tunggu apa lagi sayang? Ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Musique.
Cher ami, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur, informant sur une étudiante indonésienne qui gagne au Festival international d'art. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, la fière nouvelle vient de l'enfant de la nation, Nila Eleora Putri Sianturi, élève du lycée public 68 Jakarta, a remporté une médaille d'or pour la meilleure catégorie d'affiche féminine au 21st International High School Art Festival, ISAP, du 5 au 16 août 2020 à Tokyo, Japon. L'annonce a été livrée directement par Haruhisa Handa, présidente de la Fondation internationale pour les arts et de la culture IFAC. Des compétitions et des festivals ont eu lieu sans que les participants n'y assistent directement, étant donné que l'organisation est toujours dans la période de la pandémie COVID-19. Les participants qui prennent part au concours de l'IFAC doivent passer un processus de sélection de leur pays respectif. Nila Eleora Putri Sianturi a gagné la médaille d'or au Festival et Concours National des Arts étudiants 2019, organisé par le ministère de l'Éducation et de la Culture. L'affiche de Nila a pour thème « Ne les laissez pas dormir trop longtemps dans la rue ». Nila soulève les plus gros problèmes de la société, à savoir les enfants des rues, les enfants pauvres qui n'ont pas de maison et vivent dans la rue. Elle a ajouté que les enfants sont souvent victimes d'abus et d'exploitation. Selon Nila, les enfants des rues ont besoin de l'attention non seulement du gouvernement, mais aussi de toutes les parties. Ils ont besoin de sympathie et le mérite, mais beaucoup de gens s'en moquent encore et les ignorent. Le chef par intérim du Centre national des réalisations du ministère de l'Éducation et de la Culture, Asep Sukmayadi, a déclaré que les activités de l'IFAC devraient être considérées non seulement comme une occasion précieuse de renforcer les relations amicales, d'élargir les réseaux, mais aussi de faire progresser la coopération mondiale dans le développement de l'éducation, des arts et de la culture dans le monde étant qualifié et durable. Chers amis, ce festival qui est organisé par IFAC a réuni 18 pays pour la catégorie affiche et peinture. En dehors de ces catégories, il existe également des catégories pour les arts et la culture japonais. Dans la catégorie affiche et peinture, chaque pays envoie un maximum de 4 candidatures pour les meilleures œuvres à l'IFAC, puis un lauréat de chaque pays est sélectionné pour assister à la cérémonie de remise des prix. Les 4 nominations pour le meilleur travail qui ont été envoyées étaient les lauréats du Festival national d'art étudiant et du concours 2019 qui s'est tenu à Bandar Lampung, dans la province Lampung, dans le domaine des affiches de catégories masculines et féminines. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
Stuck in your love. bawah sinar mentari hati kita menari. Sambut musim cinta bersemi. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu.
Got me stuck in your love. No, I don't wanna go nowhere. Baby, I'm so in love with you, in love with you.
Senyum di hati, terasa ku di alam mimpi. Hingga waktu terhenti, ku ingin kau ada di sini. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Jalani hidup berdua.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter un programme de magazine musical. Vous êtes avec moi Audrey. Chers amis, cette édition vous présente une chanson intitulée Berharap Tak Berpisah. Berharap Tak Berpisah. Cette chanson a été popularisée par Reza Artamevia, qui est l'une des chansons de son troisième album intitulé Keyakinan. La chanson Berharap Tak Berpisah, écrite par Denny Chasmala, sortie en single en 2002, est téléchargée sur YouTube en 2014. En 2016, la chanson Berharap Tak Berpisah, ou bien en français, J'espère qu'on ne se part pas, est recyclée par Shanti en single. Shanti a inséré de la musique disco dans cette chanson. Bon, chers auditeurs, voici Shanti dont le titre est Berharap Tak Berpisah. Bonne écoute.
Kecewakan aku.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.